Dans le cadre de sa candidature à la présidence de 2016, Donald Trump a introduit de nombreux éléments révolutionnaires dans la conception des campagnes présidentielles.
Levez la main maintenant si vous ne faites pas cette promesse ce soir.
De la transformation de ces rassemblements en spectacle d'humour à l'adoption d'emplois dans la restauration rapide, les deux campagnes présidentielles de Trump ont été débordantes d'énergie de carnaval. Mais aucun des éléments de la campagne Trump n'a autant d'influence que le chapeau rouge MAGA. Sur un coup de tête d'un génie de la publicité ou tout simplement par accident, Trump a présenté un prototype de chapeau MAGA sous la forme d'une casquette de baseball blanche lors de son voyage de campagne pour l'élection de 2016. Peu de temps après, la tête de chaque partisan de Trump est devenue un panneau publicitaire surmonté d'une petite couronne rouge, un symbole de la foi croissante en MAGA. Depuis lors, la nouvelle tradition consistant à placer des slogans politiques sur des têtes rouges sans plus de détails est devenue un coup politique largement utilisé, et les conservateurs portant un chapeau MAGA lors de rassemblements libéraux sont devenus leur propre genre de contenu. Le chapeau rouge lui-même est devenu si polarisant qu'en 2019, Rebecca MacKay a même suggéré que le chapeau rouge, basé uniquement sur sa couleur rouge, était un symbole d'affiliation à MAGA et ne devrait pas être porté par des personnes normales. Trump lui-même est un lion rouge dévorant le soleil, un symbole de masculinité, de souffre et de pouvoir. Il est l'incarnation de la couleur rouge elle-même. Il est la peur des journalistes libéraux effrayés par le chapeau rouge qui s'avère juste. Le carnaval du rouge s'est poursuivi jusqu'en 2024, lorsqu'Elon Musk est apparu avec son chapeau gothique noir MAGA, proclamant l'essor d'une nouvelle esthétique politique. Je ne suis pas seulement MAGA, je suis MAGA gothique sombre. Le chapeau rouge MAGA, symbole de rejet social des électeurs républicains, était désormais confronté au chapeau gothique sombre MAGA des milliardaires de la technologie. Les milliardaires qui, comme de nombreux électeurs MAGA, se sentaient privés de leurs droits et mis à l'écart sur le terrain de jeu de la politique américaine moderne. Ceux qui aimeraient avoir un pouvoir politique équivalent à leur richesse plutôt que d'être les valets de pied des responsables de la Maison-Blanche. Trump et Musk sont eux-mêmes les symboles de deux idéologies politiques différentes au sein du mouvement conservateur, se nourrissant l'un de l'autre tout en se disputant la domination, comme en témoignent leurs tentatives de coopération fructueuse mais troublées, ainsi que leurs choix esthétiques. Comme le note Elon Musk lui-même, le manga rouge de Donald Trump vieillit et son pouvoir politique va inévitablement s'affaiblir. Alors que les tech bros de la Silicon Valley ne font que commencer, les rassemblements de carnaval seront terminés et il faudra faire place à de nouveaux symboles et à une nouvelle esthétique politique. Le manga est un rêve sur le retour d'un passé prospère dans les difficultés du présent. Mais les rêves du passé sont futiles. Ils ne sont que le rêve d'une civilisation vieillissante qui a trop peur de se tourner vers l'avenir. Un avenir que les seigneurs et leurs représentants politiques accueillent à bras ouverts et tentent de concrétiser par leur jeu politique. Le manga gothique sombre a été initialement représenté par Musk comme un matériau de mème parce qu'il veut être un garçon cool d'Internet. Mais ce n'était pas seulement un chapeau d'une couleur différente. Le manga gothique sombre est une vision du futur qui se reflète dans de nombreux autres objets du pouvoir technocratique. Les cybercamions, les centres de détention basés sur les données, l'argibli généré par l'IA représentant des femmes immigrées en pleurs, les systèmes d'armes automatisés, un mème appelé agence qui est utilisé pour vider un État américain de sa substance et les capsules de plaisir augmentées en réalité virtuelle pour les pauvres. Les visions du futur du manga gothique sombre deviennent notre réalité. Le futur MAGA de Trump est clair. Un rêve américain, un âge d'or du capitalisme et un retour culturel des mères chrétiennes de banlieue. Mais à quoi ressemble exactement l'avenir pour le goujat gothique sombre? Est-ce un cybertruck, un véhicule métallique à l'allure hostile qui sacrifie tout sens de l'utilité et du confort? Pourquoi exactement? Si le cybertruck est censé représenter l'avenir de l'humanité, quel genre d'avenir envisageons-nous? Le MAGA gothique sombre, que j'appellerai Dark MAGA en raison de son efficacité technologique, est construit sur les idées des élites technologiques de la Silicon Valley et des nouveaux réactionnaires qui les exploitent. La Silicon Valley ne cherche pas à maintenir une quelconque tradition, si ce n'est à faire passer un message de vertu aux électeurs conservateurs traditionnels. Elle essaie plutôt de se demander si de nouvelles traditions meilleures peuvent être créées dans la société américaine. Et si, au lieu de courir après le passé, nous pouvions simplement nous tourner vers une nouvelle vision du futur? Un futur où les rêves technologiques les plus fous des riches pourraient devenir réalité. Pas seulement des voitures autonomes et du tourisme spatial, mais une vie sans fin dans le luxe et le plaisir pour les riches au prix du contrôle, de la surveillance et du lavage de cerveau pour le reste de l'humanité. Les idées ainsi que les objets physiques ont un impact profond sur la façon dont nous vivons nos vies et façonnons notre réalité. Et les objets politiques transpercent nos structures sociales avec leurs messages, même si nous ne prêtons pas nécessairement une attention particulière à ces objets dans notre vie quotidienne. Vous pouvez donc considérer Cybertruck comme une blague, mais c'est bien réel. Cybertruck est également intéressant car il est à la fois un objet politique, car il transmet un message politique, et une cible politique, car il est étroitement associé à la politique de la Silicon Valley et plus particulièrement à Elon Musk. Le Cybertruck nuisible est également une déclaration politique. C'est pour ça que les gens y mettent le feu, parce que ça envoie un message qui cible notre vision sociale et politique collective, et pas forcément le propriétaire du cybercamion, qui, en raison de la perte de sa voiture, ne pourra pas afficher correctement sa personnalité haute en couleur d'homme d'âge moyenne absolument misérable avec trop de revenus superflus.
C'est comme de la comédie légalisée.
Ouais.
Mais même si les technophiles ont des idées dystopiques pour l'avenir, ils ne sont pas stupides. Ils essaient donc de présenter leurs idées comme quelque chose de désirable pour l'humanité dans son ensemble ou simplement comme une blague. Les mangas sombres utilisent la simplification, l'ironie, le jargon Internet, les lanceurs d'alerte, les mèmes, la culture pop, les références à la science-fiction ainsi qu'une multitude d'autres outils de sous-titres comme un moyen de voiler leurs intentions et de se dissocier de toute responsabilité pour les résultats négatifs de leurs projets. Peter Thiel est toujours silencieux. Curtis Yarvin n'est jamais sérieux et J.D. Vance n'a pas baisé sur le canapé. Selon la manière dont la Nouvelle Droite présente ses pensées, toutes les idées qui viennent de la Nouvelle Droite, qu'il s'agisse de technophiles, de néo-réactionnaires ou même de néo-fascistes, ne doivent pas être prises au sérieux. Mais que se passerait-il si nous prenions ces idées au sérieux? Et si nous regardions le camion cybernétique et nous demandions si ce frigo à roulettes est vraiment la manifestation de notre rêve collectif de ce à quoi le monde du futur est censé ressembler? Elon Musk, qui n'est pas la figure politique la plus influente mais certainement la plus visible de la Silicon Valley pour l'instant, utilise souvent des objets politiques comme un moyen d'agiter sa base de soutien tout en conservant l'attrait d'un mème. Ainsi, la tronçonneuse antibureaucratique dans un CPAC est une blague et une référence à un mème qu'il a volé ou peut-être acheté de manière véritablement libertaire à la campagne présidentielle de Javier Milei. Cependant, c'est aussi une référence directe à l'idée de rage de Curtis Yarvin ou à la destitution de tous les employés du gouvernement, qui a été ouvertement discutée par Jed Vance et tentée par le biais du projet Doge de Musk. Je pense que ce que Trump devrait faire, si je devais lui donner un conseil, c'est de virer tous les bureaucrates de niveau intermédiaire, tous les fonctionnaires de l'État administratif. Donc oui, ce regard peut paraître cool à un cercle spécifique de ses partisans que je considérerais comme tout aussi gênant, mais nous devons également examiner sérieusement l'idée de retirer tous les employés du gouvernement de l'avenir de J.D. Vance et ne pas simplement consommer passivement cette idée comme un mème. Bien sûr, dans sa carrière politique, J.D. Vance s'appuie sur la réduction de la bureaucratie et d'autres discours typiques que votre oncle conservateur continue d'avaler malgré la perte de son emploi, de ses soins de santé et de son logement à cause des politiques néolibérales. Cependant, dans l'interprétation de Yarvin, la rage ne signifie pas qu'il n'y a aucun contrôle sur la société. Cela signifie simplement que la fonction de contrôle gouvernemental est redirigée ailleurs. Une partie de la fonction gouvernementale responsable de la sécurité sociale peut être complètement effacée car elle ne profitera en aucune façon aux dirigeants d'un nouveau régime. Une partie peut être externalisée vers des modèles d'IA qui hallucineront à travers les projets de loi. Développer un système qui soumettra les citoyens à une bureaucratie automatisée en transformant chaque agence gouvernementale en un robot d'appel qui vous demandera d'appuyer sur un ou deux pour éviter la prison. Et toutes les fonctions qui comptent réellement pour la classe dirigeante peuvent être externalisées vers les structures d'entreprise contrôlées par l'élite technologique sans aucune responsabilité envers les citoyens. Alors, que signifie la tronçonneuse au CPAC? Puisque je suis seule devant la caméra, je vais répondre à ma propre question. Cela signifie que la Silicon Valley redirige le pouvoir politique et monétaire de l'État américain des institutions existantes vers de nouvelles institutions réglementées par les milliardaires technologiques de la Silicon Valley. Le look du CPAC devient encore plus louche. Désolé. Quand on parle de lunettes de soleil polarisées, pour ceux qui ne le savent pas, ce ne sont que des lunettes de soleil. Et la police gothique MAGAFON n'est que la police gothique. Veuillez ignorer toute autre réapparition historique de Francfort dans un contexte politique. Musk choisit activement des tenues vestimentaires spécifiques pour signaler aux recoins les plus reculés des espaces réactionnaires modernes. Son dernier style s'inspire d'une vague de mode, une esthétique d'extrême droite de niche qui découle d'une vague populaire parmi les adolescents d'extrême droite moderne. Cerise sur le gâteau, quiconque met ouvertement en avant ces signaux d'extrême droite a l'air d'un idiot. C'est moi qui prétends que tout est fasciste. Écoutez, ce n'est pas de ma faute si certains d'entre vous qui nous regardent n'ont pas été invités à l'été des garçons blancs et ne peuvent donc pas lire la salle. Et pour mémoire, je pense que l'effet de Musk sur le tissu social et politique du monde est terrible et destructeur. Mais je ne le considère pas comme un fasciste. Désolé, mais un homme qui est censé avaler une tonne de drogue, avoir la morphologie corporelle d'un rat taupe, tresser ses enfants comme du bétail, mais qui n'a même pas le courage de féconder une femme par des moyens naturels, ne peut pas être un fasciste. Arrêtez. Vous vous ridiculisez devant cette femme et votre ami pédomorphe. Avec leurs projets parallèles, le choix du nom de leur entreprise et parfois même leur style personnel, la Silicon Valley et les personnages adjacents tentent de séduire une nouvelle version différente du futur qu'ils souhaitent concrétiser. La nouvelle ville d'entreprise d'Elon Musk, Starbase, est située au Texas, et non sur Mars. Pourtant, le nom suggère l'endroit où Musk aimerait que se trouve sa ville d'entreprise. Le désir des technocrates d'un changement radical et rapide est parfois appelé accélérationnisme. Bougez vite et cassez des choses, dit Mark alors qu'il passe de son projet d'attacher un casque à chaque utilisateur de Facebook à sa promesse d'amitié en ligne simulée par l'IA.
Mais le citoyen moyen veut plus de connectivité qu'il n'en a. Donc l'idée
d'aller vite et de casser des choses au nom du progrès n'est en aucun cas nouvelle. Dans sa version précédente, l'idée de vitesse et de progrès à tout prix a été propagée par le mouvement d'avant-garde qui s'est répandu dans les cercles artistiques, sociaux et politiques dans la première moitié du XXe siècle. Les artistes Zangar alimentaient la montée au pouvoir du fascisme en Italie tout en ayant une place forte dans la vague communiste croissante en Russie. Quelle que soit leur affiliation politique, les avant-gardistes étaient troublés par la différence entre le progrès technologique des 19e et 20e siècles et l'absence de ce progrès dans la société. Ils souhaitaient inaugurer un nouvel avenir pour l'Europe. Indépendamment du sang qui serait nécessaire pour faire de ce triste avenir une réalité, Marinetti, le père de l'avant-garde et auteur du Manifeste fasciste parmi d'autres œuvres notables, prenait une vitesse imparable pour la vitesse, incorporant des mouvements erratiques dans ses œuvres. Il poussait la société à faire un saut mortel du haut de la falaise, prenant la destruction des musées, des objets d'art historique et de l'architecture pour faire éclater la nouvelle ère technologique. Pendant ce temps, en URSS, Mikhokovski proclamait que l'art était déjà mort, que l'art avait été tué par la guerre et que le rôle d'un nouvel artiste était de créer des œuvres à valeur utilitaire qui serviraient la révolution communiste elle-même. Dans sa poésie, il a enseigné aux anciens présidents de nouvelles normes d'hygiène, a plaidé pour l'abolition de la famille et a travaillé sans relâche pour créer une nouvelle vision de l'homme soviétique en tant que citoyen d'un avenir communiste mondial. Contrairement aux tech bros de la Silicon Valley, Alan Gardy n'avait pas besoin de s'appuyer sur des lanceurs d'alerte et une autocensure optimisée par des algorithmes. Il parlait ouvertement de leur désir d'écraser le passé et le présent et de leur soif de violence qui amènerait l'avenir. Les futuristes italiens pensaient que la guerre serait capable de propulser la pauvre Italie affamée vers l'avenir comme une nouvelle humanité née dans le sang, la sueur et les larmes de sa mère. Les futuristes soviétiques, de leur côté, ont adopté l'idée d'une solidarité de classe militarisée et d'une révolution communiste internationale comme leur version de la naissance d'une nouvelle société. Les deux vagues de mouvements futuristes ont été largement utilisées par les gouvernements autoritaires qui leur étaient associés. Comme l'observe Monica Bombe-Duchan dans son ouvrage Art and the Second World War, l'autoritarisme a toujours cherché à contrôler le récit culturel et l'art est fondamental dans ce récit. Ainsi, après leur arrivée au pouvoir, Les systèmes autoritaires ont changé leurs objectifs artistiques, passant d'une vision révolutionnaire du futur à une uniformité filtrée et monotone, nécessaire au maintien d'un gouvernement autoritaire au pouvoir. Il y a peut-être là une leçon sur l'avenir de l'accélération des penseurs et de leurs mécènes de la Silicon Valley. Mais je m'égare. Les futuristes italiens considéraient Mussolini comme un leader du futur, incorporant fréquemment son profil reconnaissable dans leur art. L'Italie de Mussolini était censée être une renaissance de l'Empire romain. Pourtant, elle était également envisagée comme quelque chose d'entièrement nouveau en soi. La vision de la renaissance d'un passé glorieux vers un avenir révolutionnaire encore plus glorieux trouve un reflet dans la pensée de la Silicon Valley sur le nouvel ordre social. Plus précisément, les idées de Yarvin sur le technofugalisme, un système monarchique qui fait référence au passé mais envisage une forme de société complètement nouvelle, une société qui, soit dit en passant, devrait être plus justement appelée technototalitarisme et non technofugalisme. Nous ne parlons pas du désir des élites technologiques de devenir propriétaires terriens. Ils sont déjà les rois de leur domaine. Au lieu de cela, nous parlons des élites technologiques qui cherchent à contrôler totalement la structure des sociétés présentes et futures. Un nouveau régime qui, si tout se passe bien, perdurera éternellement, tout comme la vie des milliardaires de la technologie eux-mêmes. Il n'y a pas de différence notable entre l'élan moderne quasi-réactionnaire de la Silicon Valley et les futuristes italiens. Tous deux imaginent une nouvelle vision radicale de l'avenir, mais ce ne sont pas les mêmes futurs. Le mouvement du XXe siècle a placé l'humain au centre du progrès. Des artilleurs aux astronautes en passant par les ouvriers de l'industrie, même les femmes au foyer ont été placées dans les cuisines réinventées du futur avec un accès direct à l'eau, à l'électricité, aux appareils électroniques ménagers et aux tupperwares en plastique brillant. L'accélérationnisme de la Silicon Valley ne place cependant pas l'humain au centre de ses idées sur l'avenir. Bien au contraire, ils envisagent l'avenir des machines. Bezos imagine des vaisseaux spatiaux pilotés par des ordinateurs en route vers la sortie de la galaxie, tandis que Zuckerberg imagine un Internet rempli de contenus générés et consommés par l'IA dans un étrange cycle d'autosatisfaction mécanisée. Dans un tel avenir, il n'y a pas de place pour un homme primitif moderne. Au contraire, l'intelligence occupe une place centrale, qu'elle soit humaine ou non. Pour libérer le véritable potentiel de la technologie moderne afin de séparer l'intelligence de l'humain, tous les humains doivent être séparés de leur biologie et de leurs pulsions irrationnelles. Les humains doivent être automatisés et machinisés pour correspondre à ce que les technophiles perçoivent comme une véritable intelligence plus désirée, sa forme informatisée. Selon les mots de Nick Land, rien d'humain ne survivra dans un avenir proche. Et la Silicon Valley considère la diversité des comportements humains chaotiques et imprévisibles comme un obstacle qui empêche la société de déclencher un véritable progrès. En fin de compte, la valeur universelle de la vie humaine elle-même est l'ennemi de l'avenir et doit être abolie pour inaugurer l'ère de la machine consciente. Car dans l'avenir technocratique, une machine consciente est porteuse de la véritable intelligence. Elle est supérieure aux humains. Les humains automatisés ont fait valoir qu'ils devaient surmonter leurs besoins d'expression, d'émotion et d'imagination unique au nom du minimalisme et des économies d'entreprise. Pour en revenir à Elon Musk, son style de vie et ses choix stylistiques contrastent fortement avec ceux de Trump, qui incarne stylistiquement une idéologie de l'ancien monde. Ce n'est un secret pour personne que la résidence de Trump à Mar-a-Lago ressemble à un palais de la Renaissance, tout comme le bureau ovale aujourd'hui. Et Trump lui-même n'a pas peur de la couleur, que ce soit dans son choix de chapeau ou dans sa couleur de peau. D'un autre côté, Musk préfère systématiquement les couleurs noires et gris. Il se livre souvent à une sorte de jeu de la pauvreté où il fait semblant d'être une personne normale en vivant dans des habitations minimalistes et frugales. L'homme lui-même essaie de vivre comme un employé de SpaceX dans un bunker martien plutôt que comme le garçon le plus riche de la Terre, jouant presque le rôle d'un personnage du futur. Il met également son esthétique et son idéologie dans ses projets. Au-delà du Cybertruck, Starbase, par exemple, s'appuie sur des unités de camping-cars comme quartier d'habitation pour ses employés. Les carrosseries métalliques des camping-cars sont comme de petits satellites du XXe siècle en orbite autour d'une fusée SpaceX, reliant davantage Starbase à l'exploration spatiale. Dans toute l'Amérique du Nord, la vie permanente dans des caravanes est emblématique de la racaille blanche et de la pauvreté en général. Pourtant, à la Starbase, les caravanes Airstream, qui sont d'ailleurs assez chères, sont censées représenter une option de logement souhaitable pour l'élite montante. Les anciens futuristes ont expérimenté l'espace, la couleur et la forme tout en développant de nouvelles inventions et de nouveaux appareils, et leurs idées ont également reflété la manière dont ils imaginaient les nouvelles maisons, les vêtements et les machines du futur, qui étaient pleins d'optimisme centré sur l'humain. Au lieu de cela, les technocrates ont poursuivi des idées minimalistes et utilitaires déjà existantes, renforçant davantage l'uniformité et le minimalisme dans la technologie et la culture qu'ils imaginent pour l'humanité. Les milliardaires de la technologie imaginent leur avenir en tant qu'entité distincte du reste de l'humanité et il va sans dire que la classe des milliardaires existe déjà en quelque sorte dans le futur. Pour eux, les frontières des États sont déjà abolies car l'argent peut leur acheter l'entrée dans n'importe quel pays. Leurs soins de santé, leur éducation, leur bien-être et leur régime alimentaire sont déjà personnalisés, basés sur les données et augmentés par la technologie. Et leurs besoins quotidiens sont pris en charge soit par des appareils intelligents, soit par des serviteurs qui se font passer pour des appareils intelligents. Ce style de vie n'est toutefois pas destiné à être partagé avec le reste du monde, mais uniquement avec ceux qui en sont jugés dignes. Le reste des humains pourrait être confronté à un autre type d'avenir technologique, comme une police basée sur les données ou une bureaucratie gérée par l'IA. Les élites technologiques ne rêvent pas d'un avenir pour tous. Elles se tournent ouvertement vers le profilage racial réaliste et les systèmes de crédit social pour justifier pourquoi elles sont celles qui méritent le meilleur avenir, tandis que d'autres ne le sont pas. Inutile de rappeler à tous ici que les familles de Seale et Musk ont largement bénéficié de la ségrégation en Afrique du Sud et que leurs idées sur l'avenir sont étroitement liées à la ségrégation coloniale. Le grand-père de Musk, décédé tôt dans la vie de Musk, mais qui semble avoir laissé une empreinte écrasante sur son petit-fils, était également impliqué dans le mouvement technocratique d'Howard Scott au début des années 1930, qui prônait un nouveau gouvernement autocratique formé de scientifiques et d'ingénieurs. Les technocrates ont plaidé pour la réduction des agences gouvernementales, la réduction de la surveillance du système juridique par les tribunaux et la déréglementation de l'industrie afin de libérer le progrès et de lutter contre le prétendu conditionnement mental des masses. Autrement dit, ils étaient mécontents de voir les médias et les universités réduire leur soutien à la science raciale et à l'eugénisme. Cela vous rappelle quelque chose, hein? Maintenant, pour la Silicon Valley et Yarvin, tout tourne autour d'une doctrine de la diversité humaine. En gros, c'est de l'eugénisme repeint. Pour eux, les inégalités sociales et de ressources ne sont qu'une extension des inégalités génétiques naturelles. Ainsi, différents groupes de personnes sont intrinsèquement dignes d'avenirs différents. Que ce soit la réussite financière et non le diamètre du crâne qui détermine leur mesure de l'intelligence. Mais pour l'instant, les tech bros doivent faire semblant de ne pas être sérieux lorsqu'ils parlent de mettre à la retraite tous les employés du gouvernement ou d'avoir un état monarchique dirigé par une dictature de PDG. Tout comme Yarvin doit faire semblant de ne pas être sérieux non plus lorsqu'il s'agit de convertir les pauvres sans emploi en carburant pour alimenter des minibus. Tout n'est qu'un mème et une blague. Et si quelqu'un décide de prendre cette idée au sérieux, c'est juste un idiot qui n'a pas obtenu l'offre. Le Cybertruck est lui aussi un mème. C'est une sorte de blague. C'est une voiture peu attrayante qui ressemble au dernier réfrigérateur Samsung. Mais est-ce qu'il a l'air drôle ou à quoi ressemble-t-il? Le châssis en acier lourd aux lignes nettes donne au Cybertruck un look brutaliste. Il est également plus grand que les véhicules normaux et la conception étrange du châssis est un choix parfait pour assurer l'anonymat du conducteur. Bien qu'il limite également la visibilité du conducteur à l'arrière, sur les côtés et à l'avant du véhicule, ce qui fait du Cybertruck un véhicule idéal pour les accidents impliquant des poteaux de stationnement, des chiens et de jeunes enfants. L'idée initialement lancée par Musk indiquait que le Cybertruck était inspiré de l'idée de son fils de concevoir quelque chose qui ressemble à une voiture cool du futur. Et bien sûr, acceptons cette histoire et supposons que c'est ce qu'Elon imagine lorsqu'il pense à la voiture du futur. Donc, c'est une voiture cool du futur qui, par coïncidence, ressemble à un Lloyd F-17 Nighthawk transformé en voiture. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas la première ni la dernière fois que la technologie militaire inspire le design civil. Il est à noter que les futuristes italiens ont également intégré la conception de l'aviation militaire dans leurs voitures. Mais ces gens ont également ouvertement affirmé que la Première Guerre mondiale était l'événement le plus cool de tous les temps en raison du nombre de nouvelles façons créatives que nous avions développées pour nous entretuer à cette époque. Les futuristes ne prétendaient pas être pacifiques. Pour eux, la violence était le but. Les véhicules Tesla sont également équipés d'un mode de défense contre les armes biologiques qui transforme le véhicule en un abri sécurisé en cas d'attaque biologique. Il est en quelque sorte à l'épreuve des balles et la faible visibilité du conducteur d'un cybercamion fait écho aux pratiques militaires qui préservent l'identité et la sécurité des soldats utilisant du matériel militaire. Le fils de Musk a donc demandé à son père d'imaginer un avenir cool et a obtenu un véhicule qui est censé nous rappeler les bombardements civils au Moyen-Orient. Je ne suis pas sûr de vouloir voir le reste de cet avenir cool qu'il imagine. Les technocrates discutent de la prolongation de la vie, des voyages dans l'espace, des améliorations médicales et de l'extinction des espèces et d'autres projets futuristes cool que nous devrions viser à l'avenir. Mais lorsque leurs idées se concrétisent, nous obtenons des voitures qui ressemblent à des bombardiers, des systèmes de drones assermentés, des technologies militaires intégrées à la police civile, une surveillance si poussée que les volontaires qui vous observent pourraient tout aussi bien être dans votre trou du cul en ce moment même, et des centres de détention aseptisés et lumineux pour ceux qui sont jugés indésirables. Il est clair que l'avenir qu'ils envisagent n'est pas celui qu'on nous annonce, ou du moins il existe deux versions de l'avenir que la Silicon Valley envisage. Une pour eux-mêmes et leur réseau de soutien, et l'autre pour tous les autres. Laissez-moi vous poser une question qui n'a absolument rien à voir. Comment s'assurer que les niveaux de criminalité restent faibles dans la ville d'entraînement de Peter ? S'il doit réfléchir à une solution au problème de ses futurs projets. C'est pourquoi il investit massivement dans la surveillance, les communications de masse, les systèmes d'armes automatisés et la police proactive. Le contrôle utilitaire des masses est une solution non violente pour les villes futures comme Peterville, qui associeront des agents de renseignement avancés et des humains mortels embêtants. C'est l'objectif déclaré de Palantir, l'un des investissements actuels de SEAL. Palantir est axé sur la sécurité, la non-violence et la police préventive. Avec Alex Karp, les deux milliardaires de la technologie militaire sont obsédés par l'utilisation du pouvoir pour créer des espaces sûrs pour ceux qu'ils considèrent comme ayant besoin de protection. Peter, par exemple, est vraiment préoccupé par la sécurité presque autant qu'il l'est par la stagnation technologique et scientifique. Il évoque souvent son opposition à la violence et aux troubles civils, en particulier lorsqu'il implique toute forme d'opposition à l'autorité. Selon lui, la douleur dirigée contre les classes supérieures est une forme de violence, mais la douleur dirigée contre les classes inférieures ou les étrangers n'est qu'un maintien de la paix.
Mais il faut avancer un argument et essayer de trouver un moyen de convaincre les gens et de changer les choses. Et vous savez, cela ne fonctionnera pas.
Vous savez, sans entrer dans tous les détails, vous savez, je ne suis pas au courant de tous les détails de ce qui se passe en Israël parce que j'ai tendance à m'en remettre à Israël. Ce n'est pas à nous de remettre en question tout et n'importe quoi. Peter n'est pas le seul à parler de sécurité tout en profitant des contrats militaires et policiers. Son ami Marc-André, en forme d'œuf, soutient également largement les entreprises militaires et de surveillance. Le véritable ami de Palantir et SEAL, Alex Karp, est le seul à avoir, semble-t-il, raté le mémo sur le maintien de la tranquillité pendant un certain temps. Et donc, il a l'air d'un maniaque complètement dérangé à chaque fois qu'il ouvre la bouche et doit parler de son travail.
Nous sommes comme la drogue pure dans les rues. À prix élevé. Un vrai succès. Vous vous sentez bien pendant des jours et cela vous rend plus fort et meilleur.
Ce n'est pas grave, Alex. Moi aussi, je continue parfois à lire mes emails. En gros, la vision d'Alex d'un avenir pacifique se résume à notre besoin d'apprendre à tuer beaucoup plus de gens, beaucoup plus vite et de préférence avec des robots si nous voulons avoir un avenir meilleur.
Palantir est là pour perturber et faire de nos institutions partenaires les meilleures au monde et, quand c'est nécessaire, pour effrayer nos ennemis et parfois les tuer. Et nous espérons que vous êtes favorable à cela. Nous espérons que vous appréciez d'être partenaire et que nous sommes vraiment heureux et très concentrés sur ce que nous faisons. Merci de votre temps.
Comme Marinetti l'a déjà fait remarquer il y a 100 ans, la guerre est la seule hygiène du monde. Donc, Alex Karp maintient ses pratiques alignées sur le manifeste futuriste. Et vous savez, j'utilise tel, Karp et d'autres types comme des blagues, ce qui peut les faire passer pour des idiots, mais ils ne le sont pas. Quoi ? Où voulez-vous aller ? Ou ne voulez-vous pas y aller ? Voulez-vous y aller ou ne voulez-vous pas y aller, monsieur ? Il veut y aller, mais il ne veut pas non plus que d'autres chats soient là. Peter sait quel est le sort réservé aux dragons dans le Floror, et il n'a pas vraiment envie de se faire tuer par un héros du village venu visiter sa nouvelle banque à Rabor. S s'intéresse à l'immortalité de plus d'une façon. Prolonger artificiellement sa vie n'en est qu'un aspect. Ne pas se faire défaire est tout aussi important. Nous voyons déjà l'utilisation d'une police préventive non violente efficace aux États-Unis sous la forme d'extradition de personnes vers la prison centrale de Dempto de Lisma, plus communément appelée la prison du Salvador. La blancheur sanitaire de Zicot est un choix, une mise en scène de propreté et de non-violence dans un endroit clairement très violent. Le bâtiment lui-même est aussi mis en scène que le visage peint et recousu du secrétaire américain à la sécurité intérieure enregistrant un TikTok devant des prisonniers tatoués dont nous ne savons rien mais dont nous sommes censés avoir peur. L'esthétique de la propreté est utilisée pour normaliser le fait que les États-Unis font ouvertement du trafic d'êtres humains depuis le sol américain vers des pays étrangers sans aucune procédure judiciaire. Le design blanc, épuré et technologiquement avancé de SECOT est une déclaration des conditions supposées humaines de la prison. C'est une prison qui, comme les nouveaux centres de détention de Trump, est censée ressembler à un hôpital moderne ou même aux entrailles de la station spatiale Star Wars, mais placée dans un environnement hostile. SECOT est censé sauver les Américains de la violence provoquée par les soi-disant immigrants illégaux tout en empêchant toute violence entre les détenus grâce à son utilisation de technologies policières avancées. C'est un miracle humain d'efficacité. Ne regardez pas ce tas de viande dans la cour. D'accord. Squat, tout comme Cybertruck, est un objet du futur technocratique que nous pouvons observer dans notre présent. C'est une prison du futur augmentée de millions de dispositifs de surveillance et de suivi financés par des investissements en crypto-monnaie où chaque détenu américain est utilisé pour générer des revenus pour le gouvernement du Salvador. SQU est un projet paradisiaque pour les futuristes réactionnaires. Il existe de nombreuses façons de décrire la connotation technologique de la politique américaine. Certains la décrivent comme néo-réactionnaire ou néo-monarchiste, certains diront même qu'elle est fasciste. Je pense que toutes ces affirmations sont fausses, car elles ne rendent pas correctement compte de l'essence des idées politiques de la future élite de la Silicon Valley, à part l'ambiance générale de merde qui émane de ces personnes. Les milliardaires de la technologie ne font pas partie de MAGA, ni d'une monarchie espagnole du XVIe siècle ou d'un parti fasciste du XXe siècle. Ces mouvements ont inspiré l'avenir du technotilitarisme. Mais en fin de compte, la Silicon Valley propose un nouveau système politique différent qui n'est pas encore complètement formé et nous n'avons pas encore de vocabulaire approprié pour le décrire non plus. Comme l'écrit Yaval Nitzer dans Totalitarisme sans totalité sur le noyau cynique de la nouvelle droite. Et pourtant, même si quelque chose comme un totalitarisme à part entière pourrait se cristalliser à un moment donné, nous devons être capables de reconnaître une autre possibilité. Notre présent est constitué d'une étrange réalité pré-utilitariste ou semi-utilitariste quasi équivalée, ou ce que j'appelle ici un totalitarisme sans totalité. Au cours des dernières décennies, les institutions libérales dominantes ont avancé que le monde s'effondrait à la fois sur le plan économique et environnemental, et que nous ne pouvions pas l'arrêter et ne devrions pas l'arrêter. Les politiciens et les partis libéraux affirment que la stagnation technologique due aux révisions sans fin du même iPhone, le changement climatique, les guerres, la dévalorisation sociale des travailleurs et le dysfonctionnement paralysant des institutions occidentales ne peuvent tout simplement pas être évités. Pour citer Jordan Peterson, mettez votre maison en parfait ordre avant de critiquer le monde. C'est notre solution actuelle à toute crise. Les fractions de gauche comme de droite au sein des systèmes démocratiques existants ne parviennent pas à envisager l'avenir au-delà de ce qui existe déjà ou de ce qui est passé. En retour, Dark Maga promet que certains d'entre nous, ceux d'entre nous qui ont le pouvoir et la connaissance, peuvent faire pencher la balance en leur faveur, se cacher de la stagnation dans leur bateau sûr et, une fois la crise terminée, construire un nouveau monde du futur à leur guise. Dans le monde du chaos, les milliardaires de la technologie rêvent d'un canot de sauvetage composé d'objets et de lieux où ils ne se sentiraient pas menacés par les conséquences de leurs actes. La vision d'un avenir techno-totalitaire est un abri sûr et caché pour l'élite technologique, où sa richesse, son statut et sa vie ne seront pas affectés par le monde qu'elle s'efforce si chèrement de créer pour nous. La conception froide et hostile du camion cyber qui protège ses passagers dans une boîte en acier. Des bases martiennes sur une planète inhospitalière et des cités-états prospères entourées d'un néant ravagé par la pauvreté. Tous sont des divisions d'un canot de sauvetage pour quelques élus. La manifestation limpide d'un canot de sauvetage est bien sûr un bunker de milliardaires. Les technocrates de la Silicon Valley et les nouvelles élites sont bien investis dans les grandes installations souterraines verrouillées et gardées qui sont conçues pour résister aux catastrophes climatiques, aux troubles sociaux et aux luttes militaires que ces mêmes milliardaires s'efforcent d'accélérer. Le futurisme des milliardaires technologiques promet le salut à quelques-uns qui en valent la peine. Alors que tout le monde peut et devrait peut-être mourir au nom d'un avenir technologiquement amélioré, la vision ultime de l'avenir totalitaire pour les paysans est une nacelle humaine. La dernière invention futuriste la plus désirable pour la nouvelle ère à venir. Plus humaine que la guerre des sièges ou des drones, mais tout aussi efficace et nécessaire pour l'avenir imaginé. La capsule humaine est une unité de logement d'un confort acceptable qui peut être utilisée pour enfermer tous les indésirables et les pauvres perdants afin que les milliardaires puissent quitter leur bunker en toute sécurité et ne plus rêver de canaux de sauvetage. Dans les principes de tout prochain régime, Curtis Yarvin introduit l'idée d'une capsule humaine qu'il appelle une boîte antisociale. Une nouvelle vie vous attend dans les colonies extraterrestres. Vous vivrez dans la capsule et mangerez les insectes. Vous l'adorerez car cette capsule est la capsule de jeu ultime. Votre capsule, qui tient dans une boîte de 3 mètres de côté, est une expérience de présence totale. Elle offre non seulement une présence audiovisuelle comme dans la réalité virtuelle d'aujourd'hui, mais aussi une présence physique haptique. Vos mains sont des mains virtuelles qui peuvent tenir et utiliser des outils virtuels. La capsule est également une capsule d'exercice avec des possibilités d'aérobic et de résistance. Avec diverses extensions, vous pouvez avoir des relations sexuelles à travers elle. Elle peut même injecter de la drogue dans vos narines. La boîte est une cellule dans une sorte de ruche humaine. À l'intérieur du pot, vous vivez dans un conte de fées en tant que héros combattant des dragons avec votre guilde. Votre contrôleur haptique est si réaliste que vous pourriez quitter la capsule et devenir un grand épéiste dans le monde réel. Mais à quand remonte la dernière fois que le monde réel a eu besoin d'épéistes ? Vous pouvez travailler physiquement dans le monde réel et utiliser votre contrôleur haptique pour faire fonctionner de vraies machines. Tout, d'un aspirateur à un bulldozer, peut être utilisé contre des bitcoins par un joueur dans une capsule. Pas aussi amusant que de combattre des dragons. Pas inhumain non plus. Ces tampons humains créent ensuite des centres de données intelligents, permettant à n'importe quelle machine du monde réel de s'alimenter elle-même. Pas par une faible intelligence artificielle, mais par une intelligence naturelle complète de l'IA. Un réseau ferroviaire et orc peut transporter des boîtes là où les coûts de support sont les plus bas ou où une puissance de calcul plus importante est nécessaire. Une lumière clignote lorsque votre boîte est sur le point de bouger. Vous restez légalement résident de l'endroit d'où vous venez. Bien sûr, vous pouvez y retourner à tout moment, mais la boîte est scellée, tout comme la ruche. Vous n'avez en fait aucune idée de l'endroit où vous vous trouvez géographiquement et vous n'avez aucune raison de vous en soucier. Une lumière clignotera lorsque votre boîte sera sur le point de bouger. Pour de nombreux joueurs, cette vie en pod solo scellée serait en fait une existence idéale. Mais l'unité humaine naturelle d'organisation sociale est une tribu ou un village avec des dizaines à des centaines de bipèdes célibataires. Vous savez, tous les gens sont des êtres humains, des noms, des visages, des personnalités. Le village de pods abrite toute une communauté humaine dans un seul espace. Les utilisateurs de cette communauté interagissent physiquement les uns avec les autres, mais virtuellement avec le reste du monde. Le MD peut déplacer les utilisateurs entre les communautés, mais les utilisateurs ne circulent pas régulièrement. Un village scellé ne peut pas être mobile, mais il peut occuper un ou plusieurs étages d'une ruche de grande hauteur. Chacun entre dans cette prison uniquement de son plein gré. Nous devons maintenant persuader les gens normaux, pas seulement les joueurs dégénérés, d'emménager dans une véritable prison qu'ils peuvent toujours quitter à tout moment. Cependant, une solide ingénierie de produits peut y parvenir et cela nécessitera de sérieux efforts marketing. Le pitch est simple et pas nouveau. Une nouvelle vie vous attend dans les colonies extraterrestres. Vivez-vous une vie de merde dans un endroit de merde ? Pourquoi ne pas rejoindre l'équipage d'un vaisseau galactique ? La capsule humaine est une version volontaire et luxueuse du centre de confinement Soko avec une surveillance et un contrôle total, mais aussi de la nourriture et des oreillers. La capsule humaine est une installation de confinement pour toute la population qui n'est pas nécessaire pour maintenir le niveau de vie élevé des technocrates dans un avenir automatisé brillant. tout comme les futuristes du XXe siècle ont imaginé de nouvelles maisons remplies d'appareils électroniques et d'inventions, Yarvin envisage lui aussi un foyer pour un homme du futur. Et c'est une cage qui a accès au travail et à des divertissements sans fin en échange d'une surveillance et d'un contrôle sur son autonomie. Une non-violence argumentée, sédatée et surveillée de Peter Thiel portée à l'absolu. Et Yarvin a raison. Être dans une capsule humaine est une condition souhaitable. Quatrièmement, c'est aussi une capsule de plaisir. Un chemin vers une vie isolée mais heureuse dans la solitude. L'opposition à une capsule humaine dans un avenir technocratique signifie faire face à une réalité de chômage, de pollution, de guerre et d'instabilité sociale. Pour refuser la capsule de plaisir, il faut choisir de subir les pires aspects de la condition humaine dans un monde abandonné par les milliardaires de la technologie. Les autoritaires du passé rêvaient de remodeler les sociétés à leur image d'un monde futur idéal à tout prix, ce qui a souvent abouti à la destruction massive de vies humaines et non humaines. Cependant, les autoritaires d'aujourd'hui pensent que cette fois-ci, les choses pourraient se passer différemment. Comme l'affirme Yarvin, nous avons désormais la vidéo, ce qui, en langage de fortune, signifie qu'ils pensent que nous pouvons désormais endormir les gens pour les soumettre à l'autorité en utilisant le divertissement. Les milliardaires peuvent utiliser le pouvoir du capital plutôt que celui de l'État pour atteindre leurs objectifs. Mais leur objectif ultime est d'exercer un contrôle total sans aucune responsabilité, ce qui leur permet de remodeler le monde à leur guise. Tout comme les régimes totalitaires précédents, mais cette fois avec des divertissements générés par l'IA. Et tandis que les idées de quadruple humain, de monarchie technocratique et de surveillance totale semblent ridicules, tout cela nous est présenté sous la forme de mèmes et de coups de pub d'Elon Musk profondément peu charismatiques. Je ne veux pas que vous pensiez que ces gens ne sont pas sérieux dans leurs intentions. Les milliardaires de la Silicon Valley ont tous leurs propres idées et n'ont pas encore commencé à se disputer sérieusement le pouvoir politique, mais ils ont tous passé les deux dernières décennies à développer et à tester de nouvelles institutions, à sponsoriser des politiciens et à concrétiser leur vision du futur. Curtis Yarin peut sembler être un personnage secondaire humoristique qui porte sa veste en cuir pour créer le personnage d'un rebelle de 50 ans avec un sponsor milliardaire, mais il serait insensé de le rejeter au motif d'une mauvaise écriture et du fait que tous ses travaux sont publiés en ligne sur Substack au lieu d'être publiés dans des articles universitaires. Nous assistons à la montée d'une idéologie qui est rejetée et incontestée par les institutions de pouvoir existantes et qui est également inconnue du grand public, malgré le fait que les milliardaires de la technologie ont déjà centralisé tous les canaux d'information entre leurs mains, qu'ils possèdent les données de tout le monde et qu'ils sponsorisent également un certain nombre de politiciens de haut niveau. Alors que les libéraux ont passé les 50 dernières années à faire semblant que tout allait bien et que les gauchistes et les conservateurs ont travaillé d'arrache-pied pour critiquer les libéraux, les néo-réactionnaires envisageaient un avenir alternatif, obtenant des ressources et de la propagande pour faire basculer l'opinion publique en leur faveur et créant une nouvelle coalition politique qui mettrait en œuvre leur vision de l'avenir. La raison pour laquelle nous voyons des projets futuristes s'installer est qu'ils constituent notre alternative potentielle au système politique et économique stagnant actuel et qu'il est désormais temps que cette alternative se concrétise. Il n'existe actuellement aucune opposition généralisée à la magie noire, aux lumières noires ou à la Silicon Valley. Il n'existe aucun cadre idéologique pour s'y opposer. Une compréhension minimale de l'idéologie de la Silicon Valley, un manque de critique de leurs propositions et un manque absolu d'enthousiasme dans les milieux libéraux traditionnels pour fournir une sorte de représailles contre la montée en puissance des entreprises technologiques et des ultra-riches qui les possèdent. Étant donné que les idées de Phil, de lumière noire et d'idéologies réactionnaires adjacentes restent inaperçues dans les milieux traditionnels et les universitaires, nous ne pouvons pas imaginer correctement l'avenir techno-utilitaire et ne pouvons donc pas le critiquer. Le problème des lumières obscures, de la néo-réaction de Yarvin, de l'accélérationnisme technologique et des mouvements similaires est un problème de contrôle totalitaire. Tous les progrès technologiques supposés promis par la Silicon Valley reposent sur l'extraction de données, une surveillance involontaire constante, le contrôle, les restrictions, la désinformation et la violence nécessaires pour concrétiser leurs idées. Les tactiques et les méthodes de contrôle technotariste trouvent de plus en plus leur place dans les guerres modernes, l'électronique grand public, les voitures, les espaces en ligne, les politiques et partout ailleurs. Le fait que les milliardaires de la technologie continuent de réinventer des versions pires des trains pour leur ville de la liberté est secondaire par rapport au problème du régime totalitaire qu'ils proposent. Pour nous opposer au technotilitarisme, nous devons avoir une autre idée souhaitable de l'avenir, une vision qui peut devenir courante. Mark Fisher est célèbre pour avoir dit qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Mais bon, nous devons commencer à imaginer un avenir meilleur, même si Fisher ne pourrait pas le faire lui-même. Nous devons cesser d'imaginer la fin du monde et commencer à imaginer des alternatives qui n'incluent pas la destruction de la planète Terre et le déplacement dans un tube spatial ou le développement d'un système sophistiqué de camps de concentration avec la réalité virtuelle. Eh bien, le communisme spatial gay est un mème, mais osons imaginer qu'il devienne une réalité avant que nous soyons transférés dans des capsules humaines ou que nous finissions dans les terres désolées entourant les villes de la liberté. Nous vivons à une époque où de nombreuses technologies ont été développées, mais ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas accessibles à la majorité des gens. Nous automatisons les guerres au lieu d'automatiser les emplois dangereux et difficiles. Nos systèmes énergétiques reposent sur la violence, l'extraction de capitaux et la destruction de l'environnement. Qu'il s'agisse d'infrastructures avancées, d'automatisation du travail, de robotisation des tâches dangereuses, d'approvisionnement en énergie alternative, d'agriculture basée sur les données ou de médecine de pointe accessible, il existe toute une liste de technologies que nous devons encore mettre en œuvre auprès du grand public. Il y a donc beaucoup de place pour un véritable optimisme technologique qui n'inclut pas les bunkers de milliardaires ni les camps de concentration. Demandez-vous si vous voulez vivre dans une capsule humaine à Peterville, la ville de CO. Sinon, c'est peut-être le moment d'imaginer quelque chose de mieux. Merci de m'avoir regardé et merci à Asena et à tous mes mécènes de sponsoriser mon travail. Si vous me considérez comme digne et que vous avez un sou à dépenser, Patreon est le meilleur endroit pour soutenir mon travail. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à regarder mon autre vidéo sur les habitudes alimentaires d'extrême droite que YouTube vient de me faire remettre en ligne et qui n'a donc jamais été rendue publique. Et regardez, si vous avez besoin de crédit social pour cela, j'ai une copie exacte de la même vidéo avec 50 000 vues. Alors, allez la regarder. Sinon, merci et à la prochaine.